George Sand, Mopra, chapitre 12. Le vieux Bernard, fatigué d'avoir tant parlé, nous avait remis au lendemain. Sommé par nous à l'heure dite de tenir sa parole, il reprit son récit en ces termes. Cette époque marqua dans ma vie une nouvelle phase. À Saint-Sever, j'avais été absorbé par mon amour et mes études. J'avais concentré sur ces deux points toute mon énergie. À peine arrivé à Paris, un épais rideau se leva devant mes yeux, et pendant plusieurs jours, à force de ne rien comprendre, je ne me sentis étonné de rien. J'attribuais à tous les acteurs qui paraissaient sur la scène une supériorité très exagérée. Mais je ne m'exagérais pas moins la facilité que j'aurais bientôt à égaler cette puissance idéale. Mon naturel entreprenant et présomptueux voyait partout un défi et nulle part un obstacle. Logé à un étage séparé dans la maison qu'occupaient mon oncle et ma cousine, je passais désormais la plus grande partie de mon temps auprès de l'abbé. Je ne fus point étourdi des avantages matériels de ma position. Mais en voyant beaucoup de positions équivoques ou pénibles, je commençais à sentir le bien-être de la mienne. Je compris l'excellent caractère de mon gouverneur et le respect de mon laquais ne me sembla plus incommode. Avec la liberté dont je jouissais, l'argent qui m'était fourni à discrétion et la vigueur athlétique de ma jeunesse, il est étonnant que je ne sois pas tombé dans quelque désordre, ne fût-ce que dans celui du jeu qui n'allait pas mal à mes instincts de combativité. Ce fut mon ignorance de toute chose qui me préserva. Elle me donnait une méfiance excessive et l'abbé, qui était pénétrant et qui se sentait responsable de mes actions, sut habilement exploiter ma sauvagerie dédaigneuse. Il l'augmenta à l'égard des choses qui m'eussent été nuisibles et la dissipa dans le cas contraire. Puis il sut accumuler autour de moi les distractions honnêtes, qui ne remplacent pas les joies de l'amour, mais qui diminuent la cruauté de ses blessures. Quant aux tentations de la débauche, je ne les connus point. J'avais trop d'orgueil pour désirer une femme qui ne m'eût pas semblé comme ennemie la première de toutes. L'heure du dîner nous réunissait, et le soir nous allions dans le monde. En peu de jours, j'en appris plus à examiner d'un coin de l'appartement ce qui se faisait là, que ce que je ne l'aurais fait en un an de conjectures et de recherches. Je crois que je n'aurais jamais rien compris à la société vue d'une certaine distance. Rien n'établissait des rapports bien nets entre mon cerveau et ceux qui occupaient le cerveau des autres hommes. Dès que je me trouvais au milieu de ce chaos, le chaos fut forcé de se débrouiller devant moi et de me laisser connaître une grande partie de ses éléments. Cette route, qui me menait à la vie, ne fut pas sans charme. Je m'en souviens à son point de départ. Je n'avais rien à demander, à désirer ou à débattre dans les intérêts locaux. La fortune m'avait pris par la main. Un beau matin, elle m'avait tiré d'un abîme pour m'asseoir sur l'édredon et pour me faire enfant de famille. Les agitations des autres étaient un amusement pour mes yeux. Mon cœur n'était intéressé à l'avenir que par un point mystérieux, l'amour que je prouvais pour Edmé. La maladie, loin de diminuer ma force physique, l'avait retrempée. Je n'étais plus cet animal lourd et dormeur que la digestion fatiguait, que la fatigue abrutissait. Je sentais la vibration de toutes mes fibres élever dans mon âme des accords inconnus et je m'étonnais de découvrir en moi des facultés dont, pendant si longtemps, je n'avais pas soupçonné l'usage. Mes bons parents s'en réjouissaient sans en paraître surpris. Ils avaient si complaisamment auguré de moi dès le principe qu'ils semblaient n'avoir pas fait d'autre métier toute leur vie que de civiliser des barbares. Le système nerveux qui venait de se développer en moi et qui me fut payé pendant tout le reste de ma vie par de vives et fréquentes souffrances, les jouissances et les avantages qu'il me procura, m'avait rendu surtout impressionnable. Et cette aptitude à ressentir l'effet des choses extérieures était aidée d'une puissance d'organe qu'on ne trouve que chez les animaux ou chez les sauvages. Je m'étonnais de l'étiolement des facultés chez les autres. Ces hommes en lunettes, ces femmes dont l'odorat était émoussé par le tabac, ces vieillards précoces, sourd et goûteux avant l'âge, me faisait peine. Le monde me représentait un hôpital, et quand je me trouvais avec mon organisation robuste au milieu de ces infirmes, il me semblait que, d'un souffle, je les aurais lancés dans les airs comme des graines de chardon. Cela me donna le tort et le malheur de m'abandonner à un genre d'orgueil assez sot qui est de se prévaloir des dons de la nature. Cela me porta à négliger longtemps leur perfectionnement véritable comme un progrès de luxe. La préoccupation où je fus bientôt de la nullité d'autrui m'empêcha moi-même de me lever au-dessus de ceux que je croyais désormais m'être inférieurs. Je ne voyais pas que la société est faite d'éléments de peu de valeur, mais que leur arrangement est si savant et si solide qu'avant d'y mettre la moindre pièce, il faut être reçu praticien. Je ne savais pas qu'il n'y a pas de milieu dans cette société entre le rôle de grand artiste et celui de bon ouvrier. Or, je n'étais ni l'un ni l'autre, et s'il faut dire vrai, toutes mes idées n'ont jamais abouti à m'affranchir de la routine, toute ma force ne m'a servi qu'à réussir à grand-peine à faire comme les autres. Ainsi, en peu de semaines, je passais d'un excès d'admiration à un excès de dédain pour la société. Dès que je saisis le sens de ses ressorts, ils me parurent si misérablement poussés par une génération débile que l'attente de mes maîtres fut déçue sans qu'ils s'en doutassent. Au lieu de me sentir dominée et de chercher à m'effacer dans la foule, je m'imaginais que je pourrais la dominer quand je voudrais, et je m'entretins secrètement dans des rêves dont le souvenir me fait rougir. Si je ne me rendis pas souverainement ridicule, c'est grâce à l'excès même de cette vanité qui eut craint de se commettre en se manifestant. Paris offrait alors un spectacle que je n'essaierai pas de vous retracer, parce que vous l'avez sans doute étudié maintes fois avec avidité dans les excellents tableaux qu'en ont tracé des témoins oculaires sous forme d'histoire générale ou de mémoire particulière. D'ailleurs, une telle peinture sortirait des bornes de mon récit et j'ai promis seulement de vous raconter le fait capital de mon histoire morale et philosophique. Pour que vous vous fassiez une idée du travail de mon esprit à cette époque, il suffira de vous dire que la guerre de l'indépendance éclatait en Amérique, que Voltaire recevait son apothéose à Paris et que Franklin, prophète d'une religion politique nouvelle, apportait au sein même de la cour de France la semence de la liberté. Lafayette préparait secrètement sa romanesque expédition et la plupart des jeunes praticiens étaient entraînés par la mode, par la nouveauté et par le plaisir inhérent à toute opposition qui n'est pas dangereuse. L'opposition revêtait des formes plus graves et faisait un travail plus sérieux chez les vieux nobles et parmi les membres des parlements. L'esprit de la Ligue se retrouvait dans les rangs de ces antiques praticiens et de ces fiers magistrats qui, d'une épaule, soutenaient encore, pour la forme, la monarchie chancelante et, de l'autre, prêtaient un large appui aux envahissements de la philosophie. Les privilégiés de la société donnaient ardemment les mains à la ruine prochaine de leurs privilèges par mécontentement de ce que les rois les avaient restreints. Ils élevaient leurs fils dans des principes constitutionnels, s'imaginaient qu'ils allaient fonder une monarchie nouvelle où le peuple les aiderait à se replacer plus haut que sur le trône. Et c'est pour cela que les plus grandes admirations pour Voltaire et les plus ardentes sympathies pour Franklin furent exprimées dans les salons les plus illustres de Paris. Une marche si insolite, et il faut le dire si peu naturelle, de l'esprit humain, avait donné une impulsion toute nouvelle, une sorte de vivacité querelleuse aux relations froides et guindées des vestiges de la cour de Louis XIV. Elle avait aussi mêlé des formes sérieuses et donné une apparence de fond aux frivoles manières de la Régence. La vie pure mais effacée de Louis XVI ne comptait pas et n'imposait rien à personne. Jamais on ne vit tant de graves babiles, tant de maximes creuses, tant de sagesse d'apparat, tant d'inconséquences entre les paroles et la conduite qu'il s'en débita à cette époque parmi les castes soi-disant éclairées. Il était nécessaire de vous rappeler ceci pour vous faire comprendre l'admiration que j'ai d'abord pour un monde en apparence si désintéressé, si courageux, si ardent à la poursuite de la vérité. Le dégoût que je ressentis bientôt pour tant d'affectation et de légèreté, pour un tel abus des mots les plus sacrés et des convictions les plus saintes. J'étais de bonne foi pour ma part, et j'appuyais ma ferveur philosophique, ce sentiment de la liberté nouvellement révélée qu'on appelait alors le culte de la raison, sur les bases d'une inflexible logique. J'étais jeune et bien constituée, condition première peut-être de la santé du cerveau. Mes études n'étaient pas étendues, mais elles étaient solides. On m'avait servi des aliments sains et d'une digestion facile. Le peu que je savais me servait donc à savoir que les autres ne savaient rien ou qu'ils mentaient à eux-mêmes. Il ne vint pas beaucoup de monde dans les commencements chez le chevalier. Ami d'enfance de M. Turgot et de plusieurs hommes distingués, il ne s'était point mêlé à la jeunesse dorée de son temps, il avait vécu sagement à la campagne après s'être loyalement conduit à la guerre. Sa société se composait donc de quelques graves hommes de robe, de plusieurs vieux militaires et de quelques seigneurs de sa province, vieux et jeunes, à qui une fortune honnête permettait, comme à lui, de venir passer à Paris un hiver sur deux. Mais il avait conservé de lointaines relations avec un monde plus brillant, où la beauté et les excellentes manières d'aimer furent remarquées dès qu'elle y parut. Fille unique, convenablement riche, elle fut recherchée par les importantes maîtresses de maison, espèces d'entremetteuses de haut lieu, qui ont toujours quelques jeunes protégés endettés à établir aux dépens d'une famille de province. Puis, quand on sut qu'elle était fiancée à M. de la Marche, rejeton à peu près ruiné d'une très illustre famille, on lui fit encore plus d'accueil, et peu à peu, le petit salon qu'elle avait choisi pour les vieux amis de son père devint trop étroit pour les beaux esprits de qualité et de profession et les grandes dames à idées philosophiques qui voulurent connaître la jeune quaqueresse ou la Rose du Berry. Ce furent les noms qu'une femme à la mode lui donna. Ce rapide succès d'Aimée dans un monde auquel jusque-là elle avait été inconnue ne l'étourdit nullement, et l'empire qu'elle possédait sur elle-même était si grand que jamais, malgré toute l'inquiétude avec laquelle j'épiais ses moindres mouvements, je ne pus savoir si elle était flattée de produire tant d'effets. Ce que je pus remarquer, ce fut l'admirable bon sens qui présidait à toutes ses démarches et à toutes ses paroles. Son attitude, à la fois naïve et réservée, un certain mélange d'abandon et de fierté modeste, la faisait briller parmi les femmes les plus admirées et les plus habituées à capter l'attention. Et c'est ici le lieu de dire que je fus extrêmement choquée tout d'abord du ton et de la tenue de ces femmes si vantées. Elles me semblaient ridicules dans leurs grâces étudiées, et leur grande habitude du monde me faisait l'effet d'une insupportable effronterie. Moi, si hardi intérieurement et naguère si grossier dans mes manières, je me sentais mal à l'aise et décontenancée auprès d'elles. Et il me fallait tous les reproches et toutes les remontrances d'ennemis pour ne pas me livrer à un profond mépris pour cette courtisanerie des regards, de la toilette et des agaceries qui s'appelait dans le monde la coquetterie permise, le désir charmant de plaire, l'amabilité, la grâce. L'abbé était de mon avis. Quand le salon était vide, nous restions quelques instants en famille au coin du feu avant de nous séparer. C'est le moment où l'on sent le besoin de résumer ses impressions éparses et de les communiquer à des êtres sympathiques. L'abbé rompait donc les mêmes lances que moi contre mon oncle et ma cousine. Le chevalier, galant admirateur du beau sexe, qu'il n'avait jamais beaucoup pratiqué, prenait en vrai chevalier français la défense de toutes les beautés que nous attaquions impitoyablement. Il accusait en riant l'abbé de raisonner à l'égard des femmes comme le renard de la fable à l'égard des raisins. Moi, je renchérissais sur les critiques de l'abbé. C'était une manière de dire avec chaleur à Aimée combien je la préférais à toutes les autres. Mais elle en paraissait plus scandalisée que flattée, et me reprochait sérieusement cette disposition à la malveillance qui prenait sa source, disait-elle, dans un immense orgueil. Il est vrai qu'après avoir généreusement embrassé la défense des personnes mises en cause, elle se rangea à notre opinion dès que, Rousseau en main, nous lui disions que les femmes du monde avaient à Paris un air cavalier et une manière de regarder un homme en face qui n'est pas tolérable aux yeux d'un sage. Aimée ne savait rien objecter quand Rousseau avait prononcé. Elle aimait à reconnaître avec lui que le plus grand charme d'une femme est dans l'attention intelligente et modeste qu'elle donne au discours grave, et je lui citais toujours la comparaison de la femme supérieure avec un bel enfant aux grands yeux pleins de sentiments, de douceur et de finesse, aux questions timides, aux objections pleines de sens, afin qu'elle se reconnût dans ce portrait, et il semblait avoir été tracé d'après elle. Je renchérissais sur le texte et continuant le portrait. Une femme vraiment supérieure, lui disais-je en la regardant avec ardeur, est celle qui en sait assez pour ne jamais faire une question ridicule ou déplacée, et pour ne jamais tenir tête à des gens de mérite. Cette femme sait se taire, surtout avec les mots qu'elle pourrait railler et les ignorants qu'elle pourrait humilier. Elle est indulgente aux absurdités parce qu'elle ne tient pas à montrer son savoir, et elle est attentive aux bonnes choses parce qu'elle désire s'instruire. Son grand désir, c'est de comprendre et non d'enseigner. Son grand art, puisqu'il est reconnu qu'il faut de l'art dans l'échange des paroles, n'est pas de mettre en présence deux fiers antagonistes, pressés d'étaler leur science et d'amuser la compagnie en soutenant chacun une thèse dont personne ne désire trouver la solution, mais d'éclaircir toute discussion inutile en y faisant intervenir tous ceux qui peuvent à point y jeter du jour. C'est un talent que je ne vois point chez ces maîtresses de maison si prônées. Chez elles, je vois toujours deux avocats en vogue et un auditoire ébahi où personne les juge. Elles ont l'art de rendre le génie ridicule, le vulgaire muet et inerte, et l'on sort de là en disant « c'est bien parlé » et rien de plus. Je pense bien que j'avais raison, mais je me souviens aussi que ma grande colère contre les femmes venait de ce qu'elles ne faisaient aucune attention aux gens qui se croyaient du mérite et qui n'avaient pas de célébrité. Et ces gens-là, c'était moi, comme vous pouvez bien l'imaginer. D'un autre côté, et maintenant que j'y songe, sans prévention et sans vanité blessée, je suis certain que ces femmes avaient un système d'adulation pour les favoris du public qui ressemblait beaucoup plus à une puérile vanité qu'à une sincère admiration ou à une franche sympathie. Elles étaient comme des sortes d'éditeurs de la conversation, écoutant de toutes leurs oreilles et faisant impérieusement signe à l'auditoire d'écouter religieusement toute niaiserie sortant d'une bouche illustre, tandis qu'elles étouffaient un bâillement et faisaient craquer les branches de leur éventail à toute parole, si excellente qu'elle fût, dès qu'elle n'était pas signée d'un nom en vogue. J'ignore les airs des femmes beaux esprits du XIXe siècle. J'ignore même si cette race subsiste encore. Il y a 30 ans que je n'étais dans le monde. Mais quant au passé, vous pouvez croire ce que je vous en dis. Il y en avait 5 ou 6 qui m'étaient réellement odieuses. L'une avait de l'esprit, et dépensait à tort et à travers ces bons mots qui étaient aussitôt colportés dans tous les salons et qu'il me fallait entendre répéter 20 fois dans un jour. Une autre avait lu Montesquieu et faisait la leçon au plus vieux magistrat. Une troisième jouait de la harpe pitoyablement, mais il était convenu que ses bras étaient les plus beaux de France. Et il fallait supporter l'aigre grincement de ses ongles sur les cordes afin qu'elle pût ôter ses gants d'un air timide et enfantin. Que sais-je des autres? Elles rivalisaient d'affectation et de niaiseries hypocrites dont tous les hommes consentaient puérilement à apparaître dupes. Une seule était vraiment belle, ne disait rien et plaisait par la nonchalance de ses attitudes. Celle-là eût trouvé grâce devant moi parce qu'elle était ignorante, mais elle en faisait gloire, afin de contraster avec les autres par une piquante ingénuité. Un jour, je découvris qu'elle avait de l'esprit et je la pris en aversion. Edmée restait seule dans toute sa fraîcheur de sincérité, dans tout l'éclat de sa grâce naturelle. Assise sur un sofa auprès de Monsieur de Malesherbes, elle était la même personne que j'avais contemplée tant de fois au soleil couchant, sur le banc de pierre au seuil de la chaumière de patience.